Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Les rendez-vous du Mantois. Comme chaque vendredi, nous sommes en direct pendant 20 minutes avec un élu local. Et aujourd'hui, nous sommes à Breuil-en-Vexin, commune de 698 habitants, au lieu de balade dans une boucle dans le parc naturel régional du Vexin. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Martine Tellier, maire de la commune depuis 2020. Madame le maire, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue à Breuil-en-Vexin.
Merci de nous avoir accueillis. Ensemble ce matin, nous allons aborder différentes thématiques, telles que le budget de la commune et les travaux effectués cette année, mais également le riche patrimoine de Breuil-en-Vexin, ainsi que l'appartenance de la commune au parc naturel régional du Vexin, avec ses avantages, mais aussi ses contraintes. Mais avant cela, en préparant l'émission, nous avons parlé de votre parcours et rien ne vous prédestinait à devenir maire. Il y a une dizaine d'années, vous découvrez Breuil-en-Vexin et là, c'est un vrai coup de cœur pour cette commune.
Alors, en effet, un vrai coup de cœur. En fait, je prenais ma retraite après toute une carrière dans l'enseignement et 30 ans de vie dans une commune de Cergy-Pontoise. Et nous sommes arrivés sur Breuil-en-Vexin. On pensait pas partir en province, mais ma fille nous a annoncé qu'on allait avoir un petit fils. Pour le coup, on s'est dit c'est dommage de pas profiter effectivement de cette naissance, d'être grands-parents et d'en profiter pleinement. Donc on a cherché à s'installer ici sur ce territoire du Vexin qui nous attirait beaucoup. Et voilà, on a trouvé une maison à Breuil-en-Vexin et c'était le coup de foudre de cette commune rurale où d'ailleurs nous avions été très bien accueillis par mon prédécesseur. Moi ayant du temps, puisqu'à la retraite, je me suis intéressée à la vie du village. Et voilà, de fil en aiguille, je me retrouve élue de ce village que j'adore. Et mon travail est essentiellement faire vivre ce village et poursuivre ce que mon prédécesseur avait déjà mis en place, à savoir aussi protéger le patrimoine, mais on aura l'occasion d'y revenir.
Parce que votre envie tout de suite, ça a été de s'investir pour la commune finalement.
Voilà, tout à fait. C'était une dimension humaine que je ne connaissais pas pour avoir vécu toujours en milieu urbain. Et cette dimension humaine m'a tout de suite attirée. Et le fait de... c'est un peu ce qu'on fait aussi dans l'enseignement. Hein, on est au service des autres. Et ça, c'était une tâche qui m'a intéressée. Je suis curieuse aussi de nature. Et voilà, je me suis impliquée assez rapidement au niveau du conseil.
En cette période, on le disait, les communes sont actuellement toutes tournées vers l'année prochaine. Ça passe aussi par le budget. Qu'en est-il ici à Breuil-en-Vexin?
Alors j'ai eu la chance, je vais vous parler régulièrement de mon prédécesseur parce que il m'aide encore beaucoup, mais c'est aussi grâce à lui que je suis là. J'ai eu la chance de prendre une commune qui avait un budget, une situation saine. Donc on pouvait encore envisager des projets sans se soucier justement de faire des prêts et de mettre le budget en péril. Donc ça, c'était plutôt confortable depuis des années. Pourtant, des projets avaient été montés sur Breuil, mais le monsieur Caffin prenait à chaque fois la précaution de chercher ou des subventions ou en tout cas de faire au mieux au niveau des investissements. Donc j'avais cette possibilité d'envisager encore des projets, y travailler pour les Bruellois. Ça, c'était une situation plutôt intéressante et il y avait aussi des projets qui étaient déjà engagés et qu'il fallait mener à bien.
Donc ça, c'est ce que vous avez récupéré, hein, comme vous le disiez, des finances saines, effectivement. Toutes les villes ne peuvent pas le dire. En revanche, pour l'année prochaine, au niveau des revenus, les communes nous disent que les revenus, en tout cas, ont baissé. Est-ce que
alors,
ça va être le cas ici?
Ça, c'est une évidence. Hein, oui. Déjà, d'une part, parce qu'on ne maîtrise pas, puisqu'on n'a plus la taxe d'habitation, etc. Donc, on ne maîtrise plus l'entièreté de notre budget. Beaucoup de choses passent par la communauté urbaine maintenant. Donc, c'est une bonne chose. Mais en même temps, on n'a pas la maîtrise de tout ce qui serait possible en investissement sur la commune. Donc ça passe par des dossiers de subventions, d'aide et puis de priorité aussi au niveau de la CU. Pour l'instant, chez nous ne sommes pas en danger.
Et d'ailleurs, ça va vous permettre d'investir comme pour un grand projet que vous avez qui est la prairie humide. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une prairie humide?
Alors, c'est une prairie, comme son nom l'indique, humide, parce que elle est aussi là pour jouer comme bassin de rétention d'eau. Alors, tout le monde, c'est pas vraiment un bassin de rétention, c'est plutôt comme une éponge qui va pouvoir absorber le trop-plein de notre rivière, la Moncian, en cas de forte pluie, de crue. Donc, pour éviter des inondations en aval de la rivière, c'était une friche, un terrain abandonné, et que mon prédécesseur a racheté pour effectivement en faire un lieu de biodiversité, et donc de jouer ce rôle d'éponge au niveau de la rivière.
C'est important pour la commune de la conserver.
Oui, en fait, c'était un terrain qui était complètement abandonné et qui pourtant était une zone riche en biodiversité, que ce soit au niveau de la faune, que ce soit au niveau de la flore. Mais elle avait été abandonnée depuis plus de 20 ans. Et c'était dommage, c'était l'entrée de ville. Et c'était dommage de ne pas en profiter, ne pas en faire un lieu éducatif et un lieu de loisirs, pourquoi pas. Donc le lieu de loisirs, on a assez vite abandonné parce que c'était trop riche au niveau de la biodiversité. Il fallait pas condamner ce volet-là. Mais c'est vrai que c'était ambitieux, parce qu'il s'agit de 4 hectares, donc c'était un projet ambitieux que mon prédécesseur a démarré avec une subvention contrat de ruralité, donc des aides possibles, prise en charge de certains aménagements. Seulement, c'est long. Le temps des projets, quand on est à la tête d'une municipalité, ça nous paraît très très long, parce qu'effectivement, il y a eu différentes aussi gestions du dossier. C'était d'abord un syndicat de la Moncian. Maintenant, c'est SMSO, qui est une section de GPSO pour les eaux de ruissellement et rivières. Donc tout ça a fait que ça a été. Je suis maintenant seulement en train de finaliser ce projet, avec là dernièrement la finition d'une piste cyclable, et là c'est pour le coup GPSO, donc la communauté urbaine qui a géré ce projet-là et qui l'a mené à jusqu'au bout. Moi maintenant je me préoccupe d'une possibilité de cheminement à travers cette prairie humide pour que les Brûlois puissent en profiter.
Le principe serait donc un chemin piéton. Mais ça nécessiterait aussi des créations de ponts, c'est ça?
Alors, bien évidemment, mon intention a été de créer une boucle sur ce terrain, sur cette prairie, de façon à ce que le cheminement puisse rejoindre la piste cyclable qui est déjà créée. Mais créer une boucle, ça veut dire aussi enjamber la Moncian, passer sur l'autre rive et donc envisager, et c'est là où le coût est beaucoup plus élevé, et il faut prévoir des passerelles effectivement pour enjamber la Moncian et des endroits humides, puisque le nom l'indique, une prairie humide, où aussi il faut prévoir des passages sur pilotis.
Un autre grand projet, c'est la création d'une halle et d'un terrain de loisirs.
Alors là, on découvre un peu, j'en parle seulement maintenant parce que au Bouëlois, donc ils vont découvrir ce matin ce qu'il y aura exactement sur ce terrain. C'était un terrain qui était en vente depuis un certain temps, et puisque nous manquons cruellement à Bouëlois de lieux où les enfants peuvent se rendre seuls, de lieux de loisirs ou de sport, on avait un terrain de sport qui était à l'autre bout du village, mais il fallait suivre une route qui était particulièrement dangereuse, et en fait ce terrain il a été abandonné. Donc il s'agit là de recréer un terrain de loisirs presque au centre de Bouëlois, et effectivement ce terrain que les propriétaires n'arrivaient pas à vendre, où il y avait plusieurs projets d'aménagement de lotissement, finalement il était toujours à la vente. On a décidé donc en conseil d'acheter ce terrain et pouvoir l'exploiter, donc avec une halle, puisqu'on a une salle des fêtes qui est trop petite maintenant, et une halle pour les festivités qui sont régulières à Bouëlois, la fête de la musique, la fête des voisins, la fête de Bouëlois en septembre, et aussi un espace sport-loisir pour les jeunes de Bouëlois.
Et ça, c'est grâce au contrat rural aussi que vous avez pu, en tout cas que vous pouvez envisager ce genre de projet.
Alors, nous sommes en train de monter ce dossier de contrat rural. Là, c'est la participation du département avec l'agence Ingénierie qui va nous aider à monter ce projet.
Du côté de l'école aussi, vous avez d'autres projets?
Alors l'école, là pour l'instant, c'est presque abouti parce qu'il va s'agit maintenant d'envisager le changement de chaudière et la décoration intérieure, l'esthétique intérieure.
Ça a été en tout cas un très gros projet ces deux dernières années.
Voilà, c'est le premier gros projet que j'ai eu à gérer. Il s'agissait donc de l'isolation intérieure et extérieure de l'école avant d'envisager son relooking, comme on dit maintenant, intérieur. Ça a été compliqué parce que effectivement c'était assez nouveau. Nous avions souhaité l'aide du PNR, l'aide aussi donc
le parc
de l'État. Le
parc naturel du...
Voilà, le PNR, c'est le parc naturel du Vexin. Solliciter le PNR, solliciter donc l'État avec la DETR, le SDIL. Enfin, ce sont des dossiers à monter, longs, des audits, des prévisions, des études. Et il s'agit aussi de trouver des matériaux biosourcés qui pouvaient être disponibles parce que nous étions encore dans la période Covid. Et donc la disponibilité des fournitures, c'était aussi un sujet. Ça s'est fait sur 2 ans, une fois que le projet a été déposé, les subventions obtenues. On a travaillé sur 2 années, une première année intérieure au moment des vacances scolaires et une deuxième année sur l'extérieur, ça a été un peu long, avec de la laine de bois et de la laine de coton à l'intérieur. On a d'ailleurs pu expliquer aux élèves et montrer que c'était intéressant de recycler. Puisque la laine de coton est faite essentiellement en tissu de jean. Donc ça les a impressionnés.
Est-ce qu'avec ça, vous pouvez espérer faire des économies d'énergie?
Alors c'est ce qu'on espère, bien sûr. Il y a encore des petites finitions à prévoir. Mais c'est évident, c'était le but. Hein, parce que nos factures risquées, on l'a fait vraiment au bon moment. Nos factures pour l'instant n'ont pas trop augmenté. Maintenant, il s'agit de changer la chaudière, à savoir une chaudière au gaz aujourd'hui. Et c'est évident qu'il faut changer de mode puisqu'elle a 25 ans et qu'un jour ou l'autre, elle va nous lâcher. D'ailleurs, hier, nous avons eu une panne de chaudière. Donc, je pense que c'est le futur gros projet aussi du mandat.
En parlant d'environnement, justement, la commune, vous le disiez, fait partie du parc naturel régional du Vexin. C'est un vrai plus, mais il y a aussi quelques contraintes parfois.
Alors c'est un vrai plus d'être effectivement dans le parc du Vexin parce que ne serait-ce que par sa notoriété et puis les paysages sont des paysages magnifiques dont on fait partie. L'intérêt aussi c'est de bénéficier parfois de subventions pour évoluer, alors surtout au niveau de tout ce qui est naturel, conservation du patrimoine, les conseils en urbanisme, mais bien évidemment, du coup, il y a des contraintes aussi. Par exemple, sauvegarder nos murs en pierre, ça, c'est vrai que c'est une contrainte au niveau de l'urbanisme. Quand les gens viennent me voir pour créer une porte de garage, pour l'instant, c'est un refus parce que on n'abat pas un mur en pierre dans une commune du Vexin. De même pour les couleurs. Alors, bien évidemment, beaucoup de citoyens savent qu'il faut déposer des permis de construire ou faire des déclarations de travaux. Les contraintes sont pas énormes, mais il s'agit de couleurs, de matériaux. Pour les citoyens, ça leur fait peur. Mais en fait, c'est la possibilité d'uniformiser justement le bâti au niveau du Vexin. La plus grosse contrainte qu'on ait eue ces dernières années, c'est le zéro phyto en tant que commune, parce que ça nous oblige à plus de travail, ce qu'on appelait...
Est-ce qu'on peut expliquer ce que ça veut dire exactement?
Alors, avant, on avait ce qu'on appelait des mauvaises herbes. Bon, maintenant, on ne les appelle plus d'ailleurs mauvaises herbes, on appelle ça des plantes indésirables. Et avant, c'était facile, on prenait un produit chimique pour désherber nos trottoirs, nos caniveaux, les allées du cimetière, etc. Sauf que quand on fait partie du Vexin, Du coup, on a ces zéro phyto, c'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser ces produits chimiques qui, bien évidemment, par le biais du ruissellement, arrivaient à la rivière, voilà, pollution de l'eau, etc. Donc, c'est plus de travail à la main. Mais c'est vrai que les mentalités changent. D'ailleurs, l'aspect de nos cimetières change aussi. On a des cimetières qui sont plus verts. Avant, on aimait bien des allées bien droites, bien goudronnées. Là, maintenant, c'est une autre vision, en fait, de la nature aujourd'hui. La nature dans la ville aussi. C'est important. Donc, on accepte plus, par exemple, et effectivement, dernièrement, j'ai remplacé un trottoir par une plate-bande. Et ça a étonné beaucoup de Bruxellois et en même temps ça les ravit maintenant parce que de toute façon le trottoir ne servait qu'au stationnement. Donc finalement maintenant il y a une plate-bande qui est respectée. Mais c'est vrai qu'au niveau des agents techniques, c'est plus de travail, plus de temps à gérer.
Et faire partie du parc naturel régional du Vexin, c'est aussi ne pas avoir de grands panneaux publicitaires un peu partout.
Alors voilà, ce qui est en train de se mettre en place au niveau de GPSO, c'est-à-dire la mieux gérer la publicité, éviter la pollution visuelle sur le PNR, c'était déjà le cas depuis de nombreuses années. Donc on n'a pas le droit d'afficher des grands panneaux publicitaires. Et même au niveau des artisans, c'est parfois une incompréhension parce que on n'a pas le droit d'afficher le nom des artisans sur nos murs de maison quand on fait faire des travaux. Bon, il y a une petite on est un peu indulgent effectivement parce qu'on sait que pour les artisans et d'ailleurs des artisans qui sont reconnus par le PNR, c'est plutôt mieux pour les travaux qui peuvent être entrepris. Mais c'est vrai que la publicité est interdite. Le PNR a aussi harmonisé la signalétique parce que là aussi il y avait une diversité qui n'était pas qui n'était pas esthétique. Donc la plupart du temps pour les communes du PNR, nous avons le même esthétique au niveau de la signalétique.
Surtout qu'ici, à Breuil-en-Vexin, on le disait, la commune a en plus une partie de son patrimoine qui est classée.
Alors, non, pas classée. En fait, on a deux points inscrits. Alors, c'est pas tout à fait classé, c'est pas tout. Je ne vous expliquerai pas exactement ce que ça signifie, mais en tout cas, le fait d'avoir un bâtiment inscrit au patrimoine nous oblige à passer pour tous les permis de construire ou demandes de travaux. De passer par les bâtiments de France. Et ce sont les bâtiments de France qui donnent l'autorisation en fonction des critères définis par les bâtiments de France et le PNR. À savoir, pour l'instant, nous n'avions pas le droit, par exemple, aux panneaux solaires posés sur les toitures. Là, c'est en train de changer. A priori, on pourra accepter des panneaux solaires encastrés dans les toitures. Mais c'est vrai que dans un périmètre d'un bâtiment inscrit, on ne peut pas aménager sans passer par les bâtiments de France.
Et d'ailleurs, vous avez parlé des plates-bandes que vous avez installées. Vous avez reçu cette semaine une deuxième fleur au concours des villes et villages fleuris.
Alors, ouais, cette deuxième fleur, c'est une grande fierté pour le village. Mon prédécesseur avait travaillé à l'obtention d'une première fleur, il en était très fier et je lui avais promis qu'effectivement on poursuivrait dans le même sens. Et alors j'ai eu plusieurs difficultés à surmonter, donc le Covid certes, mais aussi des problèmes d'agents techniques, de main d'œuvre, avec un départ de deux agents en même temps, un pour longue maladie et un autre pour un autre horizon. Et donc le terrain était, enfin le terrain, les plates-bandes de Breuil ont mal vécu pendant au moins 3 ans. Donc cette année, j'ai eu la chance de rencontrer une jeune personne, Léa, qui s'était présenté au poste d'agent technique et surtout pour le fleurissement. Et effectivement, elle est d'une part charmante, mais elle est très professionnelle et très courageuse. Et elle a relevé les manches et on s'y est mise toutes les deux au choix des fleurs, etc. Et pour aboutir à une visite du jury, alors nous étions un peu déçus parce que on attendait le jury plutôt en juin, fin juin, début juillet, et le jury s'est annoncé que pour septembre. Donc il a fallu gérer l'été. Mais en fait, ils ont vraiment apprécié leur virée dans Breuil, si je puis dire, parce que Breuil, ça s'étend quand même si c'est un village de 700 habitants, une grande surface. Et donc, ils ont visité avec plaisir différents quartiers. Et voilà, donc ils nous ont attribué une deuxième fleur. Et ça, c'était pour nous un grand plaisir et une grande fierté.
Et ce sera le mot de la fin. Madame le maire, merci de nous avoir reçus ce matin. Vous pouvez retrouver cette émission et les précédentes en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Tout de suite, Pauline et Fredo vous attendent avec la matinale sur BPM.
Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.